2000. Profitez des promotions anti-inflation de Santé 2000 Le Club allant de 15 à 50% pour un été en santé. Joignez l'utile à l'agréable. S'entraîner à deux, c'est mieux et c'est moins dispendieux. On double les rabais sur les abonnements étudiants en duo de 3 et 6 mois. Santé 2000 Le Club est en mode anti-inflation avec des rabais allant de 15 à 30% sur nos abonnements en salle, les cours de groupe et les combos. Prenez votre santé en main à partir de 1,25$ par jour. Bienvenue au club. Inscription santé2000leclub.com. Certaines conditions.
Le centre de location Locaflex, une entreprise familiale d'ici, vous propose une gamme complète d'outils et d'équipements. Vous cherchez l'outil idéal pour vos travaux de paysagement, de rénovation ou de construction? Pensez local, pensez Locaflex. Nous avons un large éventail d'équipements. Remorques, excavatrices, nacelles, génératrices, ventilation et bien plus encore. Une solution efficace, économique et écologique. Locaflex, 194 avenue Léonidas, Rimouski, 88-722-1212.
Le samedi 25 mai dès 19h30, soirée de boxe construction Jolimont à l'Amphithéâtre Desjardins de Mont-Joli. 14 combats de haut niveau, sanctionnés par la Fédération québécoise de boxe olympique, mettant en vedette des boxeurs du Québec, de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick. Billets en vente à partir de 25$ sur ticketaccess.net ou sur le site de l'Académie de boxe BSL. Un événement présenté par l'Académie de boxe BSL de Rimouski en collaboration avec la Corporation des événements spéciaux de la ville de Mont-Joli et le Quality Inn de Mont-Joli.
93.3. Au réseau Cogeco, voici le Québec maintenant. Le Québec maintenant avec Patrick Lagacé, votre point de repère. Le Québec, le
Québec maintenant. 18h02, Yoshua Bengio, le grand penseur de l'intelligence artificielle rattaché à l'Université de Montréal, mondialement connu, a été sélectionné parmi les 100 personnes les plus influentes au monde selon le magazine Time. Il va être avec nous dans quelques instants. Dernier bulletin de l'émission. Salut Valérie.
Salut Patrick.
Donc, aux prises avec de nombreux retards dans le déploiement de son réseau express métropolitain, le REM, la Caisse de dépôt vise maintenant 2025 pour entrer en fonction de ses antennes Deux-Montagnes et Lens-à-l'Orme.
Et le président et chef de la direction de CDPQ Infra, Jean-Marc Arbeau, a évoqué cet échéancier aujourd'hui en commission parlementaire. On l'écoute.
C'est clair qu'on vise 2025. Là. On dit ça ne sera pas fait en 2024. C'est clair qu'on a des cibles. Mais, encore une fois, les tests sont déterminants.
Et pour expliquer le retard de 2 ans, M. Arbeau a notamment parlé de la dynamite qui avait été trouvée dans le tunnel Mont-Royal pendant sa réfection, ainsi que la pandémie, finalement, qui a le dos large pour plein de trucs.
C'est vrai, bien souvent. Oui. Le représentant diplomatique du Québec devrait s'installer en Israël pour de bon dans les prochaines semaines.
Oui, alors que le conflit continue de faire rage dans la bande de Gaza, c'est ce qu'a indiqué le ministre des Relations internationales, Martine Biron, commission parlementaire aujourd'hui. Et rappelons que le gouvernement caquiste est empêtré dans un imbroglio depuis l'annonce en août de l'ouverture d'un bureau de Québec, du Québec à Tel Aviv, juste avant les attaques du Hamas en Israël le 7 octobre.
Il a été convenu que notre chef de bureau commence à rentrer sur place, sur les lieux, pour aller voir comment les choses se passent, pour finir ses contacts, ouvrir cet espace-là, prendre possession de son logement. Et tranquillement, l'idée, c'est qu'il s'installe comme il est prévu à Tel Aviv.
Et Audrey Gagnon, condamnée à une peine de détention ferme de 14 ans pour le meurtre de sa fillette commis en 2018 à Québec, a de nouveau démêlé avec la justice.
Oui, elle est incarcérée au centre de détention fédéral pour femmes de Joliette. Elle est accusée de s'être livrée à des voies de fait contre un agent de la paix le 1er mars. On ignore à ce stade-ci les circonstances de l'événement qui ont conduit au dépôt de l'accusation. Audrey Gagnon qui va revenir devant le tribunal le 19 juin prochain.
Merci. Il y aura un Parlons-nous ce soir, Valérie.
Oui, ça aura question du modèle familial de la solo-parentalité. Il y a un livre qui sort à cet effet-là aujourd'hui. Une jeune femme qui veut donner des conseils pour quelqu'un qui veut avoir un enfant seul, que c'est son choix. Et la question que je vous pose ce soir, ben je vais te laisser la poser.
Oui, en seriez-vous capable?
Oui, c'est ça.
réponse, toi qui en as eu?
Non, parce que ma collègue Annie Guillemette sera avec nous ce soir. Ouais. Elle a eu un enfant toute seule par choix. Puis je l'ai regardé aller au cours de toutes ces années-là, je me rends compte que non, j'aurais pas été capable.
C'est le fun de diviser la tâche un peu.
Vraiment.
C'est peut-être pas 50-50 dans tous les coups.
Non, mais quand même.
Il y a quelqu'un à qui tu peux donner le bébé quand tu as besoin d'un petit moment seul. Ça va générer beaucoup de commentaires. Les gens peuvent commencer à nous écrire tout de suite au 98-985.
Merci beaucoup,
Valérie. On va parler d'intelligence artificielle avec Yoshua Bengio. Écrivez-moi si vous avez des commentaires, des questions pour ce grand penseur de l'intelligence artificielle. 98-985.
Le Québec.
La chanson qui annonce ce segment a été créée complètement par l'intelligence artificielle AIVA. L'acronyme AIVA se revendique comme une intelligence artificielle capable de composer des trames sonores remplies d'émotions. Donc, cette intelligence artificielle a appris les partitions des plus grands compositeurs du classique jusqu'à nos jours et ça accouche, comme ça, d'une pièce originale. Yoshua Bengio est un de nos grands penseurs au Québec, au Canada, dans le monde de l'intelligence artificielle. Les professeurs titulaires à l'Université de Montréal, fondateur, directeur scientifique de Mila. Et on le rejoint en direct de New York. Pourquoi? Parce que il est dans le palmarès des 100 personnes les plus influentes au monde, selon le magazine Time, et le gala a lieu demain. Yoshua Bengio, bonjour.
Bonjour.
C'est un autre honneur pour vous. Est-ce qu'on s'y habitue?
Oh, ça fait toujours un velours. C'est important aussi que ce soit des opportunités de pouvoir parler, de lever des drapeaux qui ont besoin d'être discutés.
C'est ça, vous parlez de lever des drapeaux. En avril 2023, là, vous étiez parmi les signataires d'une lettre qui demandait une sorte de pause de 6 mois là, sur toutes les recherches touchant l'intelligence artificielle. Vous leviez justement un drapeau rouge à ce moment-là, fallait prendre un pas de recul. Est-ce que cette alerte-là, ce signal d'alarme, a été entendu si vous faites le bilan un an plus tard?
D'une certaine manière, oui. Alors, évidemment, les entreprises n'ont pas fait de pause, au contraire, mais la discussion qui a été lancée il y a à peu près un an, elle a vraiment eu des échos partout dans le monde. C'est devenu quelque chose qui est présent dans les politiques publiques des gouvernements, les projets de loi, comme on a au Canada, dans les réflexions de sécurité nationale, dans les réflexions sur les médias sociaux. Ça devient un enjeu géopolitique. L'ONU est très, très intéressée à ça. L'OCDE, il y a des enjeux de marché du travail. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont être transformées et on est actuellement un peu comme des apprentis sorciers. On fonce en avant sans trop savoir où on s'en va.
J'ai un peu l'impression, Yoshua Bengio, qu'on est au même stade qu'autour de 2006, 2005, 2007, là, quand les réseaux sociaux commençaient à apparaître dans nos vies, quand les téléphones intelligents se sont multipliés. On a adopté ces technologies-là sans se poser de questions. Là, j'ai l'impression qu'on est à peu près au même stade.
Alors, il y a des différences. Premièrement, je pense que l'ampleur des transformations puis des dangers et des risques est beaucoup plus grande avec l'intelligence artificielle. L'autre différence, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas tant de voix que ça qui s'élevait pour dire « Oh, oh, attention, où est-ce qu'on s'en va? Quelles pourraient être les conséquences? Quel genre de scénario pourrait mal tourner? » Ça a pris plus de temps. Hein. Ça a pris qu'on voit les conséquences sociales, etc. Aujourd'hui, ben, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même pas mal de chercheurs, de penseurs, de gens qui s'intéressent à l'impact de la technologie sur la société qui discutent et qui disent, ben, voilà des choses qui peuvent arriver, voilà ce que les gouvernements pourraient faire. Donc, moi, je regarde le côté positif des choses, là.
Parfait. On y réfléchit. Il y a des gens qui lèvent des drapeaux rouges. Est-ce que ça a des relais dans les parlements? Est-ce qu'il y a des endroits dans le monde où on est passé à l'action?
Bon. Les premiers à passer à l'action, en fait, c'est les Américains à travers un décret présidentiel d'automne dernier. Sauf que c'est un décret, c'est pas une loi. Et puis le Congrès américain est pas mal gelé à cause des élections qui s'en viennent. Ensuite, il y a eu l'Europe. Donc les Européens ont finalement signé une nouvelle loi qui va aider à mettre des garde-fous autour de l'IA, surtout en ce qui me concerne les IA les plus celles qui s'en viennent, les plus gros systèmes qui sont capables de s'approcher de l'intelligence humaine potentiellement. Donc ça, c'est une excellente chose. Donc là, ils ont une longueur d'avance. Au Canada, on a quand même un projet de loi qui a été mis sur en avant depuis plusieurs années, qui traîne là un peu dans le comité qui étudie ça. Là, je trouve qu'il y a urgence en la demeure. Mais si on se déniaise, on pourrait avoir une loi canadienne très rapidement.
Avoir une loi canadienne, avoir une loi américaine dans un milieu, dans un territoire qui n'a pas de frontières, expliquez-moi comment ça peut être utile, comment ça peut aider.
Alors, premièrement, si on veut qu'il y ait des traités internationaux pour que tous les pays s'occupent de ça, ben il faut commencer chez nous. T'sais, on ne va pas dire aux autres fais ci, fais ça si on n'est pas capable de mettre des règles qui ont du sens chez nous. Ça, c'est la première chose. C'est comme si pour le climat, c'est pareil, il faut qu'on agisse pour pouvoir avoir de l'influence pour que d'autres agissent. Deuxièmement, on a le Canada, je pense, un rôle à jouer justement au niveau international comme un pays plus petit puis en lequel les gens ont confiance pour faire avancer la discussion internationale. C'est un petit peu la guerre froide en ce moment entre la Chine et les États-Unis. On peut faire partie de l'équation. Et troisièmement, ben le Canada, c'est aussi on pourrait dire quasiment un pays de naissance là des technologies dont on parle avec les chercheurs les plus cités au monde en intelligence artificielle sont canadiens. Alors, on a une responsabilité aussi.
Vous avez accordé une entrevue à CBC, à la télévision de Radio-Canada en anglais, au mois de février. Et vous avez dit, là, vos craintes par rapport à ce que vous qualifiez de perte catastrophique de contrôle aux mains d'une intelligence artificielle très, très efficace. Et vous dites que ça pourrait arriver. Et vous avez mis ça sur Facebook, professeur Bengio, et il y a un de vos collègues qui est co-récipiendaire du prix Turing 2018 avec vous, qui est allé faire un commentaire. Il est vice-président de l'intelligence artificielle chez Facebook, s'appelle Yann Lequin, et il a dit, écoutez, il vous a dit que vous étiez pessimiste par rapport à l'intelligence artificielle. Il a dit, écoutez, les gens qui ont conçu des avions se sont arrangés pour ne pas que ça explose. Et il vous fait le reproche, vous pourriez parler de ça aussi.
Bien sûr, puis on pourrait aussi parler de ceux qui ont conçu les cigarettes, de ceux qui ont conçu le développement des hydrocarbures, de ceux qui ont conçu des armes chimiques. Enfin, l'entreprise privée a besoin de garde-fous pour s'assurer qu'elle agisse de manière alignée avec les besoins et les valeurs de la société. Donc, non, je pense que son argument tient pas la route. L'histoire, l'économie, tous les économistes disent que des très grand risque, c'est ce que les économistes appellent des externalités, c'est-à-dire que ben, les entreprises qui créent ces risques-là, ça ne rentre pas dans leur calcul, finalement, de maximisation du profit. Ça doit absolument être géré par des règles communes qu'on se donne. Donc, si on veut éviter ce genre de catastrophe, il ne faut pas attendre que les entreprises fassent ce qu'il faut. Bien sûr qu'elles font partie de l'histoire, mais il faut qu'on se donne des règles, il faut qu'on comprenne les enjeux, qu'on investisse pour trouver des solutions, puis qu'on les enforce.
Est-ce que on devrait écouter des gens qui travaillent pour des compagnies comme Facebook et autres qui ont un intérêt commercial à ce qu'il y ait le moins de restrictions possibles de réglementation face à l'intelligence artificielle?
Ben, poser la question, c'est y répondre. On va pas demander à l'industrie financière de s'auto-réglementer. On a des règles très, très strictes pour éviter la fraude parce que c'est un petit peu normal qu'on va avoir tendance à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et peut-être détourner le regard et couper les coins ronds quand on a des intérêts financiers. Puis là, c'est des intérêts financiers énormes. On parle de valeur estimée pour atteindre l'intelligence au niveau humain de quadrillions de dollars. Ok, c'est l'attrait de ce que ça pourrait rapporter fait en sorte que les gens vont foncer là-dedans tête baissée sans trop y penser parce que c'est trop attirant.
Vous avez résisté, je pense, au chant des sirènes. Il y a sûrement des géants qui sont dans l'intelligence artificielle qui ont tenté de vous recruter. Vous êtes le scientifique le plus cité au monde en matière d'intelligence artificielle, professeur Bengio. Pourquoi vous résistez au chant des sirènes?
Ben, parce qu'il y a des choses plus importantes que l'argent dans la vie. Parce que je considère que ce que je gagne actuellement est tout à fait suffisant. Et surtout parce que je veux garder mon indépendance intellectuelle, pouvoir être quelqu'un qui est pas biaisé par des intérêts économiques particuliers. Et malheureusement, il y en a pas beaucoup des seniors de l'intelligence artificielle qui sont pas actuellement en train de travailler pour une des grandes compagnies de technologie d'intelligence artificielle.
Ça fausse le débat public.
Ben oui, disons